Vous écoutez, on lit pour vous.
Le toit du stade olympique réutilisé en île flottante. Un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 5 juillet 2024 dans Le Devoir. Une équipe américaine propose une solution audacieuse pour réutiliser les matériaux de la toiture du stade olympique actuel en créant des îles flottantes sur le fleuve Saint-Laurent, aux abords de l'île Sainte-Hélène. Ce projet de l'entreprise Poplus du Missouri a remporté les honneurs dans la catégorie « aménagement » de la compétition en vue du réemploi de la toiture olympique, un concours d'idéation lancé par le Parc olympique de Montréal. En février 2024, Québec a annoncé qu'un troisième toit pour le stade olympique serait construit d'ici 2028 et que le toit actuel serait démantelé dès l'été 2024. Au coût de 870 millions de dollars, la toiture proposée par les firmes Pomerleau et Canam sera fixe et devra durer au moins 50 ans, selon le gouvernement Legault. Aucun plan concret n'était prévu pour la réutilisation des éléments démantelés du toit actuel lors de l'annonce en février. C'est dans une optique de développement durable et d'exploration des possibilités de recyclage que s'inscrit le concours lancé en mai, selon Cédric Essimini, conseiller en relations publiques du Parc olympique. Le concours a été créé dans le but de stimuler le côté créatif et audacieux d'équipes de design, sans toutefois promettre la réalisation de ces projets. On va regarder la faisabilité des idées, mais on désire surtout que ce concours-là suscite l'intérêt d'organisations ou de municipalités. Dans le cas où des organismes seraient intéressés par un des projets, le Parc olympique serait prêt à fournir les matériaux, explique M. Essimini. Les équipes participantes devaient trouver un usage pour trois des groupes de composantes, soit les câbles, les membranes et les connecteurs. Chaque équipe était composée d'au moins un membre d'un ordre professionnel ou d'une association professionnelle dans les domaines de l'aménagement et du design, pour la catégorie professionnelle, et d'au moins un étudiant à temps plein dans un programme universitaire connexe pour la catégorie étudiante. Elle n'avait aucune contrainte financière ni législative à respecter, seulement l'utilisation des matériaux provenant du toit. Le concours a attiré 54 propositions. 9 équipes ont été récompensées par le jury composé d'experts du milieu. Le concours se poursuit avec un vote du public jusqu'au mois d'août. Le but, c'est que les gens se sentent concernés par le projet, de voir s'il y a un engouement. C'est le stade olympique des Québécois. C'est sûr qu'ils ont leur mot à dire, dit le porte-parole du Parc olympique. Parmi les 9 projets, plusieurs finalistes suggèrent d'utiliser les éléments du vieux toit pour créer des espaces ombragés et des lieux de rassemblement. Un projet d'une équipe étudiante, Ionosphère, propose d'utiliser les composantes afin de créer des filtres en vue de protéger les Montréalais de la pollution atmosphérique, tout en servant de repère visuel pour le paysage urbain, selon l'équipe. Dans une autre proposition, le projet Module V, dans la catégorie professionnelle, suggère de réutiliser les éléments structuraux de l'ancien toit pour créer des structures utiles aux Montréalais. Sur le bord du fleuve, le module aux allures de pont prendrait différentes configurations et se transformerait en piste cyclable, en promenade piétonnière ou en lieu d'accueil pour des micro-forêts urbaines. Les propositions finalistes sont toutes affichées et détaillées sur le site web du concours. En attendant, le chantier du nouveau toit continue de progresser et M. Essimini assure que les travaux respectent l'échéancier envisagé. « On planifie toujours un démantèlement à l'été », raconte-t-il. Les composantes du toit vont être conservées après le démantèlement au cas où un plan pour leur réutilisation se concrétiserait, selon le porte-parole. C'était le toit du stade olympique réutilisé en île flottante, un texte de Mathilde Beaulieu-Lépine paru le 5 juillet 2024 dans Le Devoir.
Quoi faire? Livre. 8 suggestions de lecture par Benoît Mignot, paru le 20 mai 2024 dans le magazine Fugue. 1. Un chien parmi les loups, tome 1. Marie-Jeanne Rioux. Oslo termine ses études en biologie et doit effectuer un stage dans le Grand Nord canadien pour étudier les loups, alors qu'Alaska est pilote d'hélicoptère. Le hasard, qui fait souvent bien les choses, va réunir les deux hommes au cœur d'une mission de 3 mois au Nunavut, où, malgré une température glaciale, le mercure va rapidement monter. Pourtant, rien n'aurait dû les rapprocher si ce n'est un prénom inspiré de la géographie du Nord. Oslo Dubois est né à Rimouski et la décision la plus audacieuse qu'il ait jamais prise fut d'orienter ses études en biologie. Pour le reste, sa vie est relativement peinarde, ponctuée de quelques chinoiseries amoureuses avec ses premiers chums et d'une gestion du stress à l'aide d'une bonne réserve de tisane au gingembre. De son côté, Alaska est un orphelin abandonné à Elmendorf, situé dans l'État américain dont il porte le prénom. Devenu pilote pour les forces armées canadiennes, cette nouvelle mission n'est à ses yeux pas différente des précédentes. Après tout, quoi de plus inoffensif que d'accompagner des scientifiques? Il est cependant immédiatement accroché par le regard du biologiste, ce qui le déconcerte un peu puisqu'il n'a jamais ressenti d'attirance pour les hommes. Contrairement à la plupart des romances homocentrées, celle-ci n'est pas constituée de conflits intérieurs où l'un des protagonistes combat ses propres pulsions. Ici, le désir est rapidement identifié par les deux hommes qui décident de l'explorer. Les enjeux sont plutôt du côté de leur entourage immédiat, plus particulièrement de Christopher, le meilleur ami d'Alaska, qui fait montre d'une homophobie exacerbée et qui cache un terrible traumatisme. Loin d'être un long fleuve tranquille, la relation entre Oslo et Alaska demeure donc ponctuée de coups durs et de révélations, notamment au regard du passé du second, mais sans que l'intensité et la profondeur de leurs sentiments ne soient jamais remises en question. La lecture du roman se révèle donc un véritable baume pour le cœur. L'autrice Marie-Jeanne Rioux est elle-même biologiste et a œuvré dans la région du Haut-Arctique canadien, ce qui explique sans doute la richesse et la précision apportées aux descriptions des espaces et des activités. Premier d'une trilogie, le prochain opus se penchera sur Christopher, un récit qui promet de nombreux tournants et retournements. 2. Kink Club, Devil. Kink Club 1. Demon, Kink Club 2. Desire, Kink Club 3. Dana Blue. La romance BDSM est particulièrement rare en français et la sortie des deux premiers tomes de la trilogie Kink Club n'est donc pas sans susciter curiosité et appétit chez les amateurs du genre ou même les simples curieux, surtout lorsqu'on retrouve en quatrième de couverture cette promesse « La soumission offre la plus étourdissante des sensations ». L'autrice, Dana Blue, avait jusqu'à ce jour surtout œuvré dans une romance plus traditionnelle, notamment celle axée sur les ados, « Heartbeat ». Rien de mal à ça, mais un virage à 180 degrés vers le BDSM avait de quoi surprendre même si elle avait précédemment touché à l'érotisme dans son roman « Les incubes de Manhattan ». Le pari est cependant remporté puisqu'elle prouve hors de tout doute qu'elle maîtrise bien le sujet. Dans le premier opus, intitulé « Devil », on pénètre dans le « Leather and Pleasure Club », chic entre New-Yorkais, spécialisé dans l'univers de la soumission et de la domination. Terence pose sa candidature comme serveur, même si le milieu l'intimide. Il a toutefois un urgent besoin d'argent et a épuisé toutes ses autres options. Il cache cependant un sinistre trauma, puisqu'il s'est récemment échappé d'une secte religieuse aux pratiques particulièrement brutales. Il tombe rapidement dans l'œil de Devil, un dominant réputé et craint par les autres membres du club, qui pressent que, au-delà du traumatisme qu'il habite et le retient, Terence est fasciné par cet univers. Une relation et un contrat se nouent progressivement entre les deux hommes, ponctués d'un apprentissage des codes du milieu et du corps de chacun. Bien qu'on puisse tout d'abord être légèrement incrédule devant cette décision de Terence, le récit met rapidement et à dessein en opposition la domination contrôlée et consensuelle du club au regard de celle, violente et coercitive, de la secte. Les scènes d'assujettissement alternent ainsi avec des moments de tendresse et de complicité. Le second opus, Demon, propose une prémisse un brin plus crépitante, puisqu'elle met en opposition Damien, ou Demon, le propriétaire du club, avec Cole Walker, un avocat belliqueux qui n'affiche que condescendance pour les tapettes. À la suite d'une altercation homophobe, Damien lui propose de l'initier au plaisir de la soumission et, bien qu'il promette de ne pas aviser les policiers s'il refuse, Cole craint tout de même le risque d'avoir un casier judiciaire. Du moins, est-ce ce qu'il se dit pour se convaincre qu'il n'a pas vraiment le choix d'accepter? De son côté, Damien se régale déjà à l'idée de mettre à sa botte l'insolent juriste. Le seul bémol à son plan est que, dans une relation BDSM, le pouvoir est partagé avec l'autre et que le dominateur pourrait donc y laisser un peu de sa superbe et ainsi révéler les faiblesses de sa propre armure. Il y a certainement quelque chose de jouissif à voir un arrogant machiste réduit à zéro, ne serait-ce que lorsqu'il sent contre sa peau le collier de soumission qu'il est tenu de porter au travail. Le roman prend également grand soin de développer la psychologie des deux protagonistes et a progressivement en révélé les parts d'ombre. L'autrice détaille par ailleurs minutieusement les pratiques ainsi que les relations de pouvoir qui sont en place. Quand je suis ici, je joue un rôle et je laisse libre cours à tous les démons qui m'habitent dans le but de te libérer des tiens. Je serai cruel, et ni tes plaintes, ni tes protestations, ni tes gémissements ne m'arrêteront, mais tu peux sortir d'ici à n'importe quel moment. Bref, la trilogie se révèle une incursion à la fois instructive, pétillante et à fleur de peau. Les trois tomes de Kink Club sont disponibles en librairie. Vous écoutez « Quoi faire ?» livre, 8 suggestions de lecture par Benoît Mignot, paru le 20 mai 2024 dans le magazine Fugue. 3. Quand tu seras prêt, Gary Lonsborough. Jackson est un ado australien de 17 ans qui souhaiterait se confondre avec le papier peint, mais c'est peine perdue puisqu'il est aborigène. Lui et ses copains sont donc la cible idéale des cons racistes de la ville. Il cache par ailleurs un autre secret. Et lorsque sa tante se présente accompagnée de l'énigmatique Thomas, il réalise qu'il lui sera peut-être difficile de maintenir bien longtemps sa dissimulation. Non seulement Jackson est-il attiré par le nouveau venu, mais ce dernier semble auréolé d'un passé trouble et mystérieux qui stimule d'autant sa curiosité et les rapprochements. Malgré ses appréhensions, il se retrouve ainsi à explorer ce qu'il ressent pour un autre homme, mais également à découvrir une part de son histoire. En effet, Jackson est déconnecté de sa communauté et Thomas l'initie donc à différents éléments de la culture Koori et aux anciens de son clan. Le concept de découverte de soi dépasse donc celui d'une quête identitaire personnelle pour également embrasser celle d'une communauté et de la place qu'il peut y occuper. Les tensions amoureuses demeurent cependant toujours au cœur du récit et sont abordées avec une grande finesse à travers un entrelacs de déni et de révélation. Je ne comprends pas pourquoi je me sens si seul, si abandonné. Je l'ai rejeté parce que je suis hétéro. Or, ça n'a pas de sens. Les garçons hétéros ne pleurent pas pour d'autres garçons. La réalité aborigène australienne est fort peu abordée dans la littérature populaire et encore moins dans celle s'adressant aux jeunes adultes. Et le roman en présente une description extrêmement riche. Nulle surprise, puisque l'auteur, Gary Lonsborough, en est lui-même issu. Le récit se développe ainsi à travers une réalité sociale complexe où les enjeux des insultes ordinaires, du racisme systémique et de l'homophobie sont abordés. Le titre français, quand tu seras prêt, est fort bien choisi puisqu'il réfère aux différents choix qui se présentent à Jackson. Faire face à ses sentiments, sortir du placard et découvrir sa culture, sa sexualité. Un très beau roman qui ne laissera personne insensible. 4. Les corps sur la neige. Stéphane Le Dien. Les méandres de la corruption de l'industrie de la construction ont donné lieu à une enquête publique, la Commission Charbonneau, qui a fait les manchettes de 2011 à 2015. C'est maintenant la fiction qui s'empare du sujet au cœur d'un polar haut en couleurs et riche en scènes d'action et règlements de compte. Le récit débute en 2012, alors même que les audiences publiques de la commission d'enquête battent leur plein. Une foule avide et inquiète se masse à chacune des séances. Les journalistes et le public sont impatients de croquer dans de nouveaux scandales bien juteux, alors que le crime organisé est sur les dents à l'idée qu'une indiscrétion puisse menacer leur empire. Un trio de personnages se retrouvera bien contre leur gré, mêlé aux multiples conspirations qui se trament. C'est notamment le cas d'un ancien tireur d'élite des forces armées françaises. Réfugié à Québec sous l'identité de Martin Thériault et œuvrant maintenant comme déneigeur de toit. Gabriel Beaumont, un policier intègre qui devra affronter une double menace, le crime organisé et des collègues corrompus. Finalement, Riley Lewis, une journaliste américaine un peu trop curieuse, simplement venue couvrir les audiences. S'ajoute un personnage secondaire qui capte immédiatement l'attention lorsqu'elle surgit au cours du premier chapitre. Anna, une jeune femme trans qui exécute des missions périlleuses et des contrats parfois douteux, tout en chevauchant une moto rugissante. Auréolée de mystère, l'escalade de violence dans laquelle elle s'inscrit vise à accomplir une vengeance qui la ronge peu à peu. Le roman marie astucieusement le réel et l'imaginaire. Les protagonistes croisent ainsi de véritables personnalités de l'époque ainsi que d'autres, dont on devine bien souvent l'identité malgré le nom fictif utilisé. Même la ville de Laval a droit à une nouvelle dénomination assez rigolote, Longval. Un polar de Stéphane Le Dien, riche en crimes crapuleux, poursuites échevelées et révélations surprenantes au cœur d'une course effrénée vers la vérité. 5. Jean Cocteau, Je t'aime jusqu'à la mort. Correspondance avec Jean Desbordes, 1925-1938. Marie-Jo Bonnet, éditrice. L'année 1925 s'annonce tout sauf heureuse pour Jean Cocteau, puisqu'elle se place sous l'enseigne de la mort de son amant, Raymond Radiguet, décédé un an plus tôt et dont il pleure toujours la disparition. Pourtant, la lettre d'un admirateur transi, Jean Desbordes, va le ramener à la vie alors qu'il lui répond par trois petits mots « Venez me voir ». C'est le début d'une histoire passionnelle entre le jeune homme de 19 ans et celui qui est déjà un bonze de la littérature et des arts du haut de ses 36 chandelles. D'abord placée sous le signe d'une passion mutuelle, la relation évolue éventuellement vers celle d'un Pygmalion et de son élève. Cocteau lui déclare d'ailleurs « J'aurai des mains surnaturelles pour t'aider, te diriger, te glorifier, t'endormir. Je t'aime jusqu'à la mort. » C'est sous ses auspices que Jean Desbordes publie « J'adore » en 1929, pour lequel son mentor rédigera une préface. Cette première missive de 1925, mélange d'innocence et d'adoration, amorce une série d'échanges sur fond de création littéraire au gré d'une relation en dents de scie, ponctuée d'une jalousie exacerbée de Cocteau, de multiples ruptures et réconciliations et d'une consommation immodérée d'opium. En 1944, alors qu'il œuvre pour la résistance, déborde et torturé puis tué par la Gestapo. La correspondance entre les deux hommes est publiée ici, pour la toute première fois, dans son intégralité. Leur relation tumultueuse se dressera en filigrane de la production littéraire des deux hommes et malgré la tempête qui la secoue parfois, Cocteau demeurera toujours charmé par son élève et amant. Même le soleil a des taches. Votre cœur n'en a pas. Chaque jour, vous me donnez ce spectacle, votre surprise d'apprendre que le mal existe. La correspondance s'accompagne d'un texte biographique de Marie-Jo Bonnet, ainsi que d'une reproduction des préfaces de Cocteau pour deux ouvrages de Desbordes, « J'adore » et « Les tragédiens », ainsi que d'une entrevue qu'il a accordée en 1959 à Radio Nice. Les passionnés de Cocteau ou de Desbordes plongeront également avec plaisir dans l'ouvrage d'Olivier Charmeux, « Le glorieux et le maudit ». Vous écoutez « Quoi faire, livre », 8 suggestions de lecture par Benoît Mignot, paru le 20 mai 2024 dans le magazine Fugue. 6. Nick et Nonk, 13 nouvelles érotiques gays. Michel Bellin. La littérature érotique est un art difficile à maîtriser, surtout si on tente d'un même souffle d'élever le beau du corps avec celui du verbe. Au fil des ans, Michel Bellin s'est livré avec succès à cet exercice et un tout nouveau recueil en présente les plus beaux fleurons. Il faut dire que plusieurs de ses écrits furent publiés au début des années 2000 et qu'il était dorénavant beaucoup plus difficile d'y accéder. Par ailleurs, quoi de mieux que d'y replonger pour y porter un regard critique, histoire de les corriger ou de les rehausser afin d'en sélectionner les meilleurs exemples. Qu'il s'agisse d'une prémisse classique, mettant en scène un livreur de pizza, d'un fleuriste expert en plantes bien bulbeuses, de jumeaux qui tendent des embuscades, d'un spécialiste du paralympisme bien réchauffé, d'un homme à la recherche d'un remède miracle pour une migraine atroce, d'un touriste éveillé par des travaux de construction ou d'une relecture de la Genèse. L'auteur appuie à fond, vous excuserez le mauvais jeu de mots, sur la pédale d'embrayage. Le titre se veut une variation autour de l'expression latine « hic nunc », soit « sur le champ sans délai », qui décrit bien l'urgence qui habite les hommes peuplant les nouvelles. Cet impératif ne se fait cependant jamais aux dépens de la qualité de la langue, puisque, comme Michel Bilin le souligne, « avant la verge, au commencement, était le verbe ». Un mélange improbable entre le bouillonnement des corps et la noblesse de l'esprit. 7. MMMXEST, Whitlove, Didier Sénave. Est-il possible de résumer les rencontres d'un soir et les passions durables d'une vie en quelques pages? C'est à cet exercice, à la fois périlleux et exaltant, que s'est livré Didier Sénave, à travers une série de textes qui évoquent les hommes qui l'ont marqué, chacun à leur manière. À travers 25 instantanés, constitués de nouvelles et de textes poétiques, l'auteur rend notamment hommage aux baises rapides, un regard échangé à la sauvette, l'impact des poppers dans l'art de la masturbation, le sexe insatiable comme la romance apaisante, le temps qui passe trop vite, la fulgurance des ruptures ou la dépendance au corps de l'autre. Ta peau, tes cheveux, tes yeux, ton sourire, ton sexe, c'est ma vie, c'est mon royaume et vous n'y pouvez rien. Quel que soit votre prétexte, vous n'y pouvez rien jusqu'à notre probable désamour. Qui vous prouvera simplement que nous sommes pareils à vous? Fragile, et imparfait. L'auteur prend également un malin plaisir à insuffler certaines touches d'humour à ses récits. On peut ainsi se demander si la nouvelle « Les problèmes de Nicolas » ne cache pas une vision déjantée du petit Nicolas, de Sempé et Goscinny, ou, maintenant adulte, celui-ci s'affaire de backroom en backroom, de tasse en tasse, de parc en parc, de parking en parking. Il butinait du printemps à l'automne et au-delà. Il collectionnait des ombres comme d'autres collectionnaient des timbres. Qu'importe si mon hypothèse est fausse, puisque le résultat demeure à la fois amusant et attendrissant. Né en Belgique, biologiste, cinéaste et photographe, Didier Senave découvre son imaginaire, ses souvenirs et ses fantasmes à travers un ouvrage dédié aux hommes qu'il a aimés. 8. Fouol. Six poiriers. Face à la multiplication des discours qui s'arrogent le droit de remettre en question l'existence même des personnes trans et non-binaires, Six poiriers décide de répliquer à l'aide d'une arme salvatrice qu'elle maîtrise parfaitement et qu'elle nomme, fort à propos, l'ironie réparatrice. Le recueil de textes poétiques est découpé en 6 sections au titre évocateur. Nous sommes des personnes. L'événement. Nombreuses nos ennemis. Les fleurs du bien, détournement. Ce qu'il reste à défaire, qui sont elles-mêmes accompagnées de citations éclairantes. Au gré des textes, l'auteur, l'autrice traverse les étapes de découverte et d'appropriation identitaire, les enjeux rencontrés, les rejets cruels et les bonheurs exaltants. C'est ainsi que, sur 2 pages, se retrouve une liste percutante des 42 clichés dont Yel fut assénée et qui commencent tous par l'utilisation du même prénom, Simon, afin de bien marteler un genre présenté comme inaltérable. Mes traumatismes au congélateur. J'oublierai bientôt que je suis folle. On communiquera avec moi seulement par vol d'oiseau. Je serai inachevable en mouvement perpétuel. Un ouvrage à la fois poétique et politique où, comme Yel le souligne avec force, Six poiriers tente de relier toutes les personnes trans grâce à un fil d'or invisible et solidaire, de faire surgir un rire complice, le rire de la méduse qui couvre la rumeur médiatique et les silences violents. C'était « Quoi faire livre? 8 suggestions de lecture par Benoît Mignot » paru le 20 mai 2024 dans le magazine Fugue.